Merci Seigneur pour sa présence. Elle est bonne, elle est parfaite. Et c'est à mon tour de vous dire bonjour. Ah, il y a des enfants, c'est les vacances. Voilà, vous venez de Montauban, on vous l'a dit tout à l'heure. Et vous avez bien sûr les salutations de notre pasteur responsable, Didier Rivalin, et son épouse Sonia Rivalin. Voilà, et je leur transmettrai aussi vos salutations. Voilà, merci Seigneur. Alors oui, Luc l'a dit tout à l'heure, on va pas compter les années, mais je pense que ça fait 30 ans, Luc, qu'on se connaît, Luc et Valérie. Comment on se connaît? Il y avait des choses bizarres dans les églises il y a 30 ans, il y avait des équipes de foot. Je ne sais pas si on peut dire bizarre, non, c'est pas bizarre, c'était une bénédiction. Et il y avait des équipes de foot, et à Montauban et à Albi, où étaient Valérie et Luc, eh bien, il y avait aussi une équipe de foot et les églises se sont rencontrées comme ça. Et c'est comme ça que tout petit, j'avais 10-12 ans, je pense, une dizaine d'années, un peu plus, on a pu se rencontrer et faire nos premiers tacles ensemble. Un petit pont, il a dit. Et donc, c'est une joie de plusieurs années après de pouvoir servir le Seigneur ensemble. Voilà. On a un parcours un petit peu similaire dans le ministère, puisque nous aussi, nous sommes rentrés activement dans le ministère pastoral, tout proche des 40 ans. Luc, je crois, un peu plus tard, un tout petit peu plus tard, mais voilà. Je crois que c'est une bénédiction aussi de pouvoir partager avec des frères aussi qui peuvent nous conseiller. Et dans ce cadre-là, c'est bon aussi de pouvoir, à mon tour aussi, apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Et du coup, je disais 30 ans qu'on se connaît avec Luc, une trentaine d'années, et c'est là qu'on se rend compte que la vie, elle est courte quand même, et que les années, ça file vite, vous êtes d'accord avec moi? Ça va très très vite, et il y a pile un an, sur l'Assemblée de Dieu de Montauban, nous avons perdu un jeune de 24 ans. Un jeune de 24 ans, un accident de la route. Il s'était engagé avec le Seigneur quelques mois avant. Il s'était engagé dans les eaux du baptême, merci Seigneur. Et 24 ans, une vie qui s'arrête, quoi. Vous imaginez forcément le choc dans le groupe de jeunesse, dans l'église, bien sûr. Et c'est là où on réalise, mais on le sait, mais quand ça nous arrive, que la vie est bien trop courte. La vie sur Terre, en tout cas sur Terre, elle est courte. Et souvent on se dit, mais après coup, quand on vit des temps de deuil ou des temps difficiles, on se dit, mais pourquoi on s'est pris la tête? Pourquoi on s'est pris la tête comme ça à un moment donné? Des fois, il y a des fois où... Pourquoi je me suis pris la tête avec un tel et pour des broutilles, et peut-être que 40 ans plus tard, ça fait 40 ans qu'on ne se parle plus à cause de cette broutille. Dans l'église, ça peut être pareil, mais bien sûr dans les familles aussi. Et puis la paix, elle s'envole. La paix s'envole, le cœur est lourd, c'est difficile, les relations sont lourdes. Et puis il y a un texte qu'on aime bien dans la Bible dire, proclamer sur nos vies quand il y a du trouble, c'est dans Philippiens, on le connaît bien ce texte. Et le Seigneur nous invite à nous inquiéter de rien et à avoir cette paix. Alors on va le lire. Vous le connaissez par cœur, Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec de la reconnaissance, de la louange, et la paix. J'ai remarqué tout à l'heure que j'avais jamais remarqué, même en étant venu au pastoral, que le rond-point que vous avez ici s'appelle le rond-point de la paix. Petit clin d'œil, ça m'a fait... Merci Seigneur. Et la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et ce verset, on l'utilise souvent quand on passe par des moments difficiles, des moments particuliers, des moments d'anxiété, des moments de trouble. Et Paul nous encourage ici à ne pas nous faire de soucis. Et merci Seigneur, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Et dans les grandes périodes de trouble, on s'appuie sur sa parole. On s'appuie sur les vérités de Dieu, sur ce verset-là particulièrement, Philippiens 4:6, ouais, on connaît par cœur, on y va. Et la paix, ne vous inquiétez de rien, en toute chose. J'ai envie de me rappeler dans quel contexte Paul écrit ceci. Paul écrit toujours avec un but, dans une circonstance. Il écrit pour régler un problème aux églises, pour répondre à des questions, pour reprendre, pour encourager. Par exemple, aux Corinthiens, il écrit parce qu'il y a des tensions, de l'immoralité, des cas même d'inceste. Aux Galates et aux Romains, il leur fait un grand exposé de la doctrine, du péché, du salut, de la rédemption. À Philémon, il va lui écrire, il va lui dire de pardonner à son ancien esclave. À Timothée et Tite, il va s'adresser à des pasteurs pour leur donner des conseils. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pour un but précis quand Paul écrit. Et Paul écrit dans un but précis quand il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Peut-être que vous n'aviez pas remarqué, mais ce verset s'inscrit dans un contexte très particulier. Quand il dit « Ne vous inquiétez de rien » et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pour cela, il faut retourner au verset 2 jusqu'au verset 9. Et on va lire ensemble dans quel contexte Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Verset 2, Philippiens 4, verset 2. Tu peux afficher. Il ne veut pas. Ça y est. Voilà le début en fait du flot de pensée de Paul. Dans quel contexte Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Voilà comment il commence son flot de pensée. Je recommande à Évodie et Saint-Tiche, deux sœurs dans l'Église, de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je lis en version Sommaire. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps. Celui-là aussi, on le connaît bien, le verset tout-terrain, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance en action de grâce. Je le répète, c'est en version Sommaire. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Et il continue. Et enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Ne vous inquiétez de rien. Il le dit dans quel contexte ? Il le dit dans un contexte où deux sœurs sont en train de se prendre la tête et de s'embrouiller. Ouais, elles se chicanent. Et qu'est-ce que Paul leur dit ? Il leur recommande d'arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez. Mettez-vous d'accord dans le Seigneur. Mettez-vous d'accord d'une même pensée. Il y a un problème relationnel. Ben oui, quand il y a un problème relationnel et qu'on se prend la tête avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un qu'on aime, la paix, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'envole. Hein. Ah, elle part loin. Ah, elle s'en va. Elle s'en va. Les soucis, les tracas, ça prend la tête. Et puis ça reste dans les pensées. Ça nous obnubile. Oh là là, ça m'empêche même de dormir. Je ne fais que penser qu'à ce problème. Je ne fais penser qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Ben oui, parce que quand il y a un différend avec quelqu'un, et je le redis, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime, avec qui on a fait du chemin, eh bien on est attaqué là dans nos pensées. Ça nous fait mal. Quand il s'agit d'un frère, d'une sœur dans l'église, ça fait encore plus mal. On a passé du temps ensemble à louer le Seigneur, à servir ensemble, et on s'est pris la tête et le lien est rompu. Il y a là un enjeu spirituel. C'est un enjeu spirituel que Paul met en avant. Ces deux sœurs, au verset 3, tu peux l'afficher, elles ont un passé en commun. Tu peux passer ? Elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile. Ça veut dire qu'elles ont servi ensemble. La même cause, la plus belle des causes, celle de Jésus-Christ. Et Paul y voit là une situation assez grave pour l'écrire. L'écrire, parce qu'il sait que lorsqu'il y a une discorde, il y a une chicane, lorsqu'il y a un problème, une embrouille entre personnes, alors là c'est deux sœurs, mais ça peut être entre deux frères ou entre un frère et une sœur, peu importe, hein. Ici pour nous ici. Et Paul, il le sait, quand il y a un souci, c'est pas qu'un enjeu humain, c'est un enjeu spirituel. De vivre en harmonie l'un avec l'autre, l'une avec l'autre, d'avoir un même sentiment. Paul dit, je vous y invite instamment. Remettez-vous d'une même pensée, accordez-vous là, toutes les deux. Et s'il y a cette recommandation avec insistance, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait très bien, le Seigneur sait très bien que nos relations dans la famille de Dieu, elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet enjeu. Et la parole nous invite vraiment à prendre soin de nos relations les uns avec les autres. Comme Jésus a pris soin des relations qu'il a eues quand il était ici-bas sur terre. On le voit enseigner, on le voit prier, on le voit toujours avec une foule qui le suit et que même exténué, il prend du temps avec eux. On voit Jésus prendre du temps. Et Paul sait que si cette discorde, cette embrouille continue de trop et que ça dégénère, eh bien c'est l'annonce de l'Évangile qui va en pâtir. C'est mon témoignage qui va être entaché. Et c'est l'Église qui en pâtit. C'est pour ça que c'est un enjeu spirituel. Et c'est là toute la ruse du diable de mettre à mal l'Église de Jésus-Christ, la faire pourrir de l'intérieur. La faire pourrir de l'intérieur. Il faut quand même se rappeler que les épîtres, les lettres de Paul, elles sont envoyées, mais elles sont envoyées pour être lues dans l'Église. Elles sont envoyées pour être lues. Imaginez Luc qui est en prison, Luc, je ne te le souhaite pas, et il écrit à l'Église de Colomiers. Je sais par un des responsables qu'il y a une embrouille entre Évodie et Saint-Tiche. C'est lui là, d'ici. Mettez-vous d'accord, les sœurs, arrêtez de vous prendre la tête. Il ne peut pas vous le dire en physique puisqu'il est en prison. Rappelons-nous ça. Ça veut dire que la mention du nom de ces deux personnes fait de cette situation une situation sérieuse. Très sérieuse. Et il le sait, Paul. Et c'est pour ça qu'il demande de l'aide. Il demande de l'aide, il dit... Il rappelle, tu peux passer. Il en appelle à son collègue. Toi, mon fidèle collègue, son délégué dans l'église de Philippe, là, il s'agirait d'Épaphrodite. C'est celui qui a amené la lettre de Paul aux Philippiens, à cette église. Paul le cite comme celui qui a remis les dons de l'église. Quand Paul est en captivité à Rome. Et il est touché par cette offrande, alors il renvoie Épaphrodite avec cette lettre. Et il dit à ce responsable, viens leur en aide. La situation, elle est assez grave pour qu'elle soit prise par un des responsables de l'église. Aujourd'hui, on dirait un ancien ou un pasteur à la retraite peut-être. La situation, elle est assez grave. Tellement importante qu'elle soit accompagnée par quelqu'un de responsable. Et c'est pour ça aussi que Paul dit qu'il faut que le responsable dans l'Église, il faut qu'il ait une vie carrée aussi. Hein. Il faut que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari, fidèle à sa femme, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations à régler qui sont importantes, comme celles qu'on cite, par exemple. Tellement important. Tellement important, je fais une parenthèse aussi, si vous avez une embrouille, Bon, d'en parler entre vous, bien sûr. Et puis, si c'est pas réglé, d'aller en parler aux responsables, aux pasteurs, aux couples pastoraux. Et pas aller à droite, à gauche. Je referme la parenthèse. Mais je le redirai peut-être. Et puis, il continue. On va dérouler le texte tranquillement ce matin. Tu peux afficher. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Paul continue et il exhorte à se rappeler et à même se réjouir du salut commun. Ben oui. Parce que quand je me retrouve à l'église et que même si j'ai une embrouille avec un frère, une sœur, alors que comme ce matin, je suis en train de louer avec ce frère ou cette sœur, et qu'on est ensemble, et qu'on est en train de louer, comment louer alors qu'on est encore embrouillé? Je vais me réjouir. C'est pour ça qu'il leur dit, mais réjouissez-vous. C'est dur de se réjouir quand il y a une embrouille, quand il y a une chicane, j'aime bien dire ce mot, quand il y a une chicane, c'est compliqué de se réjouir. Mais quand on va louer le Seigneur ensemble, on va mettre tout ça de côté. On va se réjouir ensemble de ce grand salut qu'on a en Jésus-Christ. On se rappelle qu'on est tous les deux, frères et sœurs, issus du même sang, celui de Jésus. Si je me rappelle que Jésus a donné sa vie autant que pour celui avec qui j'ai l'embrouille, ça devrait arrêter directement l'embrouille. Le sang de Jésus est purifié de tout péché. Merci Seigneur, merci Jésus. À nous de nous examiner nous-mêmes et puis prendre nos responsabilités aussi. S'aimer. Je continuerai bien sûr avec l'amour tout à l'heure. Il nous a sauvés à un si grand prix. Le si grand prix de sa vie que nos disputes au regard de ce qui nous lie, de son sang qui nous lie, nos disputes ne valent pas le coup. Ma petite embrouille qui peut-être continue depuis 30 ans au final, elle vaut pas le coup au regard de la vie de Jésus donnée. Notre salut commun est bien plus grand que tout ça. Bien plus grand. L'annonce de l'évangile, mon témoignage, est bien plus grand que nos petites différences sur terre. Alors je veux apprendre à regarder. Je veux apprendre à regarder à ce qui nous unit. À ce qui nous unit. Et regarder ce qui est de l'ordre du secondaire. Secondaire, le mettre à part. Alors réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. C'est là où la discorde va pouvoir commencer à prendre fin. Et ça continue encore le texte, tu peux continuer. Faites-vous connaître par votre amabilité. En d'autres mots, ne vous faites pas remarquer par votre aigreur là, et par vos amertumes, peut-être même par votre brutalité, par votre hargne. Eh oui, parce que quand il y a les discordes, hein, aïe, 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 ça reprend vie là, aïe, 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 ce qu'il y a au fond de moi. C'est pas tout à fait mort encore, hein. C'est pas tout à fait crucifié. Alors Paul leur dit, mais soyez plutôt aimables, hein, entre vous, quand même. Soyez doux, gentils. Faites-vous connaître pour cette amabilité. Ça me parle que j'ai besoin de développer la vie de l'esprit et le fruit qui en découle. Merci Seigneur pour ce Saint-Esprit que tu me donnes, que j'ai en moi. Je veux qu'il déborde. Je veux manifester le fruit, je veux manifester la douceur, l'amour, la joie, la paix à mon prochain. Merci Seigneur, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider, on est d'accord ? Aïe, aïe, aïe. Moi, mon vieil homme, il ne m'aide pas souvent, hein, mais le Saint-Esprit, il m'aide. Merci Seigneur. Des fois, j'ai envie de tacler, mais je me retiens. Référence au foot de tout à l'heure. Et il continue encore. Il continue sa lettre. Tu peux continuer. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ne perdez pas votre temps dans cette embrouille. Ne perdez pas du temps à vouloir avoir absolument raison. Paul, il leur dit, vous êtes en train de perdre votre temps là et vous dites Saint-Tiche avec vos bêtises. Vous êtes en train de perdre du temps. Le Seigneur revient bientôt. Vous ne croyez pas que vous avez autre chose à faire que de vous chicaner et de vous prendre la tête? Arrêtez. Le Seigneur arrive, il revient. Alors aimez-vous, aimez les autres. Le Seigneur revient bientôt. Prenez le temps, oui, de vous réjouir ensemble, de parler du grand salut de Dieu autour de vous, à vos familles, à vos enfants. Merci Seigneur. Le Seigneur est proche et il revient, et ça c'est une vérité implacable. Et Paul continue son flot de pensées. Ne vous mettez en souci de rien, ne vous inquiétez de rien. Et là, quand on va chercher dans le mot original qui est utilisé par Paul, c'est très intéressant. Le mot original qui est utilisé pour inquiéter, ne vous inquiétez de rien, il peut avoir cette signification-là, chercher à promouvoir ses propres intérêts. Il leur dit, ne cherchez pas à promouvoir vos propres intérêts. Arrêtez de tirer la couverture à soi. Notre union en Jésus-Christ est bien plus importante que de savoir qui c'est qui a tort ou qui c'est qui a raison. Comme dans un couple. On s'est pris la tête hier avec Sissi. Eh ben oui, forcément. J'ai dit, ben forcément, je vais prêcher sur ça. On se prend la tête. Mais après, on se pardonne. Et après, on s'aime. Et après, on se dit, je t'aime. Et on prie ensemble, prier, louer ensemble, ça règle tout. Ça règle tout. Notre amour est bien plus important que la raison de la discorde. Nos embrouilles ne valent pas le coup. Ça, ce sont les valeurs du monde. J'ai raison, je ne bougerai pas. C'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais écraser l'autre, c'est moi qui serai vu. Non, Paul leur dit, ne cherchez pas à promouvoir vos propres intérêts et que rien ne vienne mettre la discorde entre vous, que rien ne vous trouble. Ne vous inquiétez de rien. Regardez plutôt à Jésus qui a donné sa vie pour vous. Alors ça, c'est bon dans le couple, ce que j'ai raconté, mais c'est bon aussi dans une embrouille entre frères et sœurs. C'est ça, on décide de dire, ok, stop. Peu importe qui c'est qui a raison ou qui a tort, on prie. On se met de côté, on s'accorde un pardon mutuel et on dit « Ok, on va prier. On va prier. » Parce que il y a des choses beaucoup plus importantes. Et c'est pour cela que Paul continue. La suite directe de « Ne vous inquiétez de rien », c'est ceci. « En toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. » En lui disant votre reconnaissance, arrêtez et priez en toute chose, pour toute chose. Là, il est question de problèmes relationnels, mais pour toute chose, en effet. Adressez-vous à Dieu. Exposez-lui vos besoins. Si vous avez une embrouille avec quelqu'un, mais exposez-le au Seigneur. Faites-le même ensemble. Et surtout, faites-le. Adressez-vous à Dieu, exposez vos besoins à Dieu. Est-ce qu'il y a écrit exposez vos besoins à Pierre, Paul ou Jacques? Je crois pas, hein. Adressez-vous à lui directement. N'allez pas exposer vos tracas, vos soucis à la terre entière, s'il vous plaît. N'allez pas exporter, colporter, même si la personne vous a fait du mal. Et oui, que c'est vrai que c'est injuste ce que vous vivez. Adressez-vous à Dieu. Exposez vos besoins à Dieu. Parce que si ça s'envenime, c'est toute l'Église qui va en pâtir. C'est toute l'Église qui va être pourrie de l'intérieur. D'une petite chose, ça pourrait prendre une ampleur trop importante. Et c'est l'annonce de l'Évangile qui pourrait en pâtir et qui serait mise à mal. Mon réflexe. Ce matin, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la décision que le premier réflexe à avoir aujourd'hui, maintenant, si j'ai un problème ou si j'ai un souci, c'est de l'exposer à Dieu. Et à lui seul, de m'enfermer dans ma chambre et d'exposer mon problème à Dieu. et de prendre mon courage à deux mains, d'aller voir mon frère, ma sœur, ma famille, mon conjoint et dire est-ce que... Allez, on va prier. Franchement, on va prier. Plutôt que de se prendre la tête, on va prier. Allez, plutôt que de se prendre la tête, on va se dire je t'aime. Et on va aimer le Seigneur ensemble. Amen. Quand on s'accorde dans la prière, l'embrouille prend la seconde place. Quand on s'accorde la prière, c'est Jésus qui prend la première place. Le différent, il est mis de côté. Et tous les soucis qui engendrent ces différents, pendant le moment de la prière, ils sont mis de côté. Ils ne sont plus au premier plan. C'est Dieu qui prend la place. Et c'est lui qui aurait toujours dû l'avoir d'ailleurs. Et voilà pourquoi Paul continue. Et il le dit là. Et la paix. Et la paix de Dieu. Quand on a prié, quand l'embrouille, elle est réglée. Ça vous est déjà arrivé là ? C'est comme s'il y avait 2 tonnes sur les épaules qui tombaient. Vous vous êtes réconcilié. Vous avez prié. C'est fini. Il n'y a plus d'embrouille. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voilà. Elle garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Amen. Que ça fait du bien quand la brouille, elle est réglée. Oh, que ça fait du bien. Quelle paix. Quelle paix. C'est vrai que c'est une paix qu'on ne comprend pas. Ça m'est arrivé d'un coup. Je me souviens vraiment d'un jour où terminé. La paix. Il n'y a plus le poids. Il n'y a plus de mal au ventre. Il n'y a plus les nuits qui sont difficiles. Les nuits redeviennent tranquilles. Les nuits redeviennent bonnes. Les relations redeviennent bonnes. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Le mot original de paix, on peut y retrouver cette signification, un état de tranquillité nationale, c'est-à-dire où il n'y a plus le ravage de la guerre. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. C'est la paix. C'est terminé. Plus de guerre entre les individus. La parole de Dieu nous y invite à ne pas lutter contre la chair et le sang, hein, mais à lutter contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes que Jésus a vaincus à la croix. Amen. Merci Seigneur. Le diable, il le sait très bien. Il veut voir la chair et le sang. Il veut voir les hommes s'entretuer. Il veut voir les hommes et les femmes s'embrouiller. Mais non, il ne va pas nous avoir. Il ne va pas vous avoir ce matin. Que tout le monde ressorte en ayant démasqué cette ruse du diable de nous déchirer, nous entre-déchirer. Jésus a remporté la bataille à la croix. Il a porté tous nos péchés, il a porté tous nos tracas, il a porté tous nos soucis. Merci Seigneur. Et tout cela, ça garde nos cœurs. Après, il y a une responsabilité aussi. On a la responsabilité de garder notre cœur aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Proverbe 4. Car de lui viennent les sources de la vie. Et quand mon cœur est gardé, ma source, elle est bonne, elle est remplie de paix, de joie, et elle est plus remplie d'amertume et de mauvaises pensées envers celui ou celle avec qui je me suis pris la tête. Les pensées, tiens, Paul y vient, et il continue encore. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ben oui, parce que quand on se prend la tête, comme je le disais, nos pensées, elles sont prises que par ça. Quand il y a un problème, on ne pense qu'à ça. On se couche avec ce problème en tête, on se réveille avec ce problème en tête, et dans la nuit, on a été réveillé par ce problème. Et Paul leur dit, il leur donne la solution, il est pratique, Paul. Il applique, il nous fait appliquer les choses spirituelles. Voilà ce qui est concret. Ne nourris pas tes pensées par l'amertume. Ne nourris pas tes pensées par la méchanceté. Ne nourris pas tes pensées par la rancœur. décide de ne pas repasser sans cesse le mal qu'on t'a fait. C'est une décision dans tes pensées, ou même le mal que toi tu as pu faire. Tu as pu faire du mal, alors ne repense pas ces mauvaises pensées en toi. Quand c'est pardonné, c'est pardonné. Le Seigneur t'a pardonné, alors pardonne-toi. Tu pardonnes à l'autre, l'autre te pardonne. Seigneur, je décide de nourrir mes pensées de tout ce qui est bon, de tout ce qui est agréable, de tout ce qui est digne et pur de louange, comme je le disais tout à l'heure, Jésus. Voilà, cette seule chose, Jésus, louer, cette seule chose nécessaire, Jésus. Jésus, la louange, la gloire, l'honneur qui reviennent à notre Jésus, à notre seul Seigneur et Sauveur. Je nourris mes pensées par le pardon, par l'amour. L'amour de Christ pour moi et l'amour envers mon prochain. Ce que vous avez appris, tu peux continuer, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez reçu de moi, pratiquez-le. Comme je le disais, Paul, il est pratique. Merci Seigneur, parce que Paul a été un exemple au final quand il s'est converti dans ses relations. Il a su entretenir des relations les uns avec les autres, avec ceux qu'il a travaillé. Même si des fois, il a eu quelques embrouilles aussi, bien sûr. Mais quand Jésus s'est révélé à lui, il est devenu un imitateur du Christ. Et moi, à mon tour, je veux être un imitateur de Christ. Et appliquer et pratiquer ces choses. Jésus nous montre un exemple parfait. Je veux suivre son exemple parfait. Alors la barre, elle est haute. Mais merci Seigneur, il nous fait progresser tous les jours, de progrès en progrès. Paul nous donne là deux impératifs. Deux impératifs. Dans le verset d'avant, il dit « nourrissez ». Et d'ailleurs, le verset 8 et le verset 9, en réalité, ne sont qu'un seul verset dans la version originale. Et Paul dit ces deux impératifs. « Nourrissez, mettez en pratique. » Et là, il est question d'obéissance. Est-ce que je désire? Est-ce que je veux le faire? Est-ce que j'ai l'intention de le faire? Ou est-ce que là, c'est bien le prédicateur, là, le prédicateur de Montauban, il est bien gentil, mais moi, j'ai pas envie. Pratiquez. Moi, je vous encourage, je ne peux qu'être un messager et à vous dire de pratiquer ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut la paix du cœur, la paix intérieure pour votre vie. Il ne veut pas que vous repartiez toujours lourd et accablé par un problème relationnel. Quel est le problème relationnel que vous avez? Seul vous le connaissez, moi je ne le connais pas, familial, dans l'église, même dans la famille, dans votre couple. Peu importe quel est le problème relationnel, mais avec ces deux impératifs et cette obéissance à ces deux impératifs, nourrissez et mettez en pratique ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, et bien voilà la paix. Et Paul continue, et il conclut avec ça. Le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Si vous décidez de mettre en pratique, il vous accorde la paix. Cette paix, c'est la conséquence de tout ce que nous venons de voir dans ce flot de pensées de Paul et dans ce contexte d'embrouille entre deux sœurs. Mais comme j'ai dit, ça pouvait l'élargir à d'autres contextes. Dans votre vie, dans ce que vous vivez en ce moment, ce que vous vivez peut-être même depuis des années. Cette paix, c'est la conséquence de la conciliation, la conséquence de la prière commune, la conséquence de la bonne nourriture de mon âme, la conséquence de l'obéissance. Elle est à l'opposé de l'anxiété, cette paix, à l'opposé du tracas. La paix de Dieu, c'est un contentement intérieur, un repos qui nous est offert aujourd'hui, qui vous est offert aujourd'hui. Alors pratiquez, obéissez. En conclusion, tout ça, vous l'avez vu, c'est parti d'un problème relationnel. Ce matin, je n'ai pas à cœur de faire un grand appel. On aurait pu faire revenir les musiciens, et sur un élan de comment dire, artificiel, fabriquer du pardon et fabriquer une relation commune. Mais j'ai vraiment à cœur que ce soit profond et pas, surtout pas fabriqué. J'ai vraiment à cœur, excusez-moi, mais de vous mettre devant vos responsabilités. C'est-à-dire que ça ne vienne pas d'un prédicateur qui est juste de passage et que parce qu'il est juste de passage, il ne connaît pas les situations, eh bien le Seigneur l'oriente dans cette direction-là. Mais simplement décider ce matin, eh bien qu'en sortant de ce lieu, eh bien qu'il y ait une obéissance à pratiquer le pardon, à pratiquer la conciliation, à voir que Jésus est au-dessus de l'embrouille que vous vivez. Cette embrouille, elle est peut-être née il y a quelques jours. Cette embrouille, elle est peut-être née il y a 40 ans. Le Seigneur, il veut la paix pour vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Merci Seigneur. Aimez-vous. Aimez-vous simplement les uns les autres. Alors je vous encourage à mettre ces choses en pratique. Comment les mettre en pratique? Eh bien c'est chacun qui se le voit. Allez voir. Prendre votre courage à deux mains. Et surtout pas, je vous encourage ce matin à ne pas le faire devant les autres. À entre guillemets, à ne pas vous faire remarquer. Comme la prière, à aller dans un lieu secret. Et là, le Père vous verra. Et là, ça sera authentique. Ça ne sera pas sur le coup d'une émotion, sur le coup d'un message, d'une prédication. Mais parce que ça sera votre décision et le Saint-Esprit qui vous aura poussé à le faire. Que ce ne soit pas à la vue de tous, mais que ce soit en secret. Mon frère, ma sœur, je veux te demander pardon pour cette embrouille. Peut-être encore plus dur, votre mari, votre épouse, votre femme. Avant de prendre la voiture, si vous avez des enfants, vous dites aux enfants de rester 2 minutes dans l'église, vous allez dehors, que personne ne vous voit. Il dit « Ok, on s'est embrouillé, mais ouais, ça vaut pas le coup. Hein. » Priez ensemble, dites que vous vous aimez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. On va prier ensemble. On va fermer les yeux. Seigneur notre Dieu, moi je m'humilie devant toi. Ce message, c'est le tien, c'est pas le mien. Ce message, il est à toi. Et je crois, c'est Saint-Esprit, que tu agis dans les cœurs maintenant. Simplement. Simplement parce que tu sais tout l'enjeu qu'il y a à s'aimer les uns les autres. Tu connais la ruse du diable qu'il y a à mettre des questions et des si et des mauvaises pensées pour nous faire pourrir de l'intérieur. Mais Jésus, toi, tu as remporté la victoire à la croix avec ton sang qui nous purifie de tout péché et qui aujourd'hui eh bien, est vivant, ressuscité, qui nous a envoyé son Saint-Esprit qui aujourd'hui nous aide dans ces choses-là. Qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, et qui nous convainc eh bien, de voir l'amour remporté sur les tracas, sur les soucis, sur les anxiétés que pourraient générer de mauvaises relations. Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans les cœurs. C'est ton œuvre, Seigneur Jésus. Seigneur, que la gloire, elle te revienne en toutes choses, que chacun puisse prendre son courage à deux mains en toi et pratiquer ces choses-là, les pratiquer, les mettre en œuvre et ne pas attendre au lendemain et à le faire dès aujourd'hui, dès cette sortie d'église, dès cet après-midi. Merci Seigneur, merci Jésus. pour ton Église, pour ton nom qui en ressortira glorifié, pour ton nom qui en ressortira honoré et vu au-dessus de tout et autour de nous. Et tu l'as dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous portez les uns aux autres. Alors à l'amour que les frères et sœurs de Colomiers dans les couples se porteront les uns aux autres. Nous croyons à une grande moisson d'âmes ici, dans cette église locale, ô Dieu. Des âmes qui passent de la mort à la vie, grâce au témoignage, aux bonnes relations, Seigneur Jésus, que les gens du dehors verront ici dans ce lieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.